I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste Eurosport.
Et bonjour, c'est Glenn Cellier, journaliste aussi chez Eurosport.
On est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, nouvelle émission. On est en plein cœur du Mercato hivernal. On se retrouve pour ce nouveau podcast que vous retrouvez, vous, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que vous retrouvez également en pastille vidéo sur eurosport.fr, les meilleurs moments. Nous, on a concocté un joli petit programme, Glenn.
Joli, je sais pas, mais j'espère que ça va vous intéresser, ça va plaire. On a trois gros sujets.
On parlera en premier lieu du Paris Saint-Germain, puisque, vous l'avez certainement vu, Pablo Sarabia a quitté le club pour Wolverhampton. Et que le PSG va chercher à se renforcer dans le secteur offensif. On annonce un budget de 10 à 15 millions. On va essayer de voir quel profil le Paris Saint-Germain doit aller chercher.
Et ça va être... Il y a quelques petits noms qui nous sont venus en tête. Derrière le deuxième sujet, on va parler du transfert de cet hiver. C'est Modric, évidemment, qui a signé à Chelsea contre une somme estimée entre 70 et 100 millions d'euros. Et en gros, on va vous expliquer pourquoi c'est un peu le symbole de dérive et le symbole surtout des politiques de deux clubs, Chelsea et d'Arsenal.
Et puis en troisième sujet, on reviendra sur le cas Memphis Depay, qui veut quitter le FC Barcelone, qui veut rejoindre, en tout cas qui a donné son accord pour rejoindre l'Atlético Madrid. Mais c'est pas si simple que ça, on verra pourquoi.
Et enfin, on terminera avec le moment que certains adorent, d'autres moins.
Ben moi je l'aime de moins en moins.
Hein. je l'ai bien aimé la semaine dernière, donc on verra évidemment, c'est ce fameux Quentin Guichard qui viendra nous animer le
Mercaquiz.
Le fameux Mercaquiz.
Allez, on y va, première partie, quel attaquant pour le PSG? On l'a dit, Pablo Sarabia a quitté le club pour rejoindre Wolverhampton pour un montant estimé à 7 millions d'euros. Paris doit se renforcer dans le secteur offensif, sauf que Paris n'a pas des moyens illimités. Non. En tout cas, il est contraint par le règlement parce qu'il a quand même dépensé près de 150 millions d'euros l'été dernier. Donc, l'équipe nous annonce que le budget du PSG pour trouver ce renfort est de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros. Mais il y a une question. Est-ce que le PSG doit aller chercher un attaquant, un pivot, comme Mbappé le réclamait en tout cas en début de saison? Ou est-ce que le club de la capitale doit plutôt chercher un profil à la Sarabia, entre guillemets, c'est-à-dire un joueur provocateur, un joueur qui est capable de rentrer en cours de match pour faire des différences. Glenn, quel est ton avis?
Alors, c'est un vrai débat là-dessus. Juste pour déjà, on va préciser deux petites choses sur le profil de l'attaquant recherché, parce que ça peut aussi donner des pistes. L'équipe a notamment expliqué que c'était que Paris ciblait un profil venant de l'étranger, donc pas de Ligue 1. Et justement... les rumeurs en ce moment, certaines sources parlent plus d'un pivot. Et moi, je pense que c'est peut-être ce qu'il faut à Paris. Parce que pour moi, ça permettrait de satisfaire notamment Kylian Mbappé. On le sait, on le souvient du pivot gang. On sait ce qu'il en pense. Il aime bien jouer avec quelqu'un devant lui qui peut peser sur les défenses, jouer en relais avec lui. Notamment, on l'a vu avec l'équipe de France, avec Olivier Giroud, évidemment, où il a fait des merveilles à la Coupe du Monde. Et je pense que c'est ce qu'il faut à Paris, c'est-à-dire il faut cet attaquant qui peut peser sur les défenses, qui peut dans certains matchs, certains aspects d'une rencontre, venir apporter ce soutien à la fois aérien, ce que Paris n'a pas pour moi à l'heure actuelle, mais aussi pour jouer justement le rôle de pivot pur, c'est-à-dire venir faire le point de relais avec Kylian Mbappé, Neymar ou bien sûr Lionel Messi. Et je trouve que même si Etiquité progresse au fur et à mesure de cette saison, c'est pas encore le cas. Et je pense que Paris a besoin d'un pivot, notamment dans l'aspect d'aller loin en Ligue des Champions. C'est-à-dire que peut-être que sur certains profils de rencontres, contre certaines équipes, pour aller loin en Ligue des Champions, ce serait peut-être intéressant d'avoir ce type de joueur dans son effectif, ce qui n'est pour moi pas le cas à l'heure actuelle.
Oui, parce que Ekitike, il a le profil athlétique pour être un pivot, mais c'est pas du tout son jeu à l'origine. À Reims, c'était pas du tout son jeu d'évoluer en pivot. Et tu l'as dit, il y a quand même eu quelques progrès.
Et ça va continuer, je pense, sur le long
terme. Ça va probablement continuer parce qu'il c'est un joueur qui a une grande marge de progression. Mais en tout cas, c'est pas son job à la base. C'est quand même une vraie tendance de fond de recruter un attaquant capable d'évoluer en pivot. C'est quelque chose qui est plutôt né en sélection nationale. On l'a vu aussi pendant la Coupe du Monde. On a aussi vu des grands clubs s'y mettre, notamment le Bayern Munich. On a vu Manchester United qui vient de recruter Wout Weghorst il y a quelques jours. Donc là aussi, on est totalement dans, dans cet objectif-là. Maintenant, je crains que ce ne soit pas vraiment la solution idéale pour le PSG. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur une attaque, un trio d'attaquants qui est complètement établi, qui est complètement intouchable. Clairement. Neymar, Mbappé, Messi. Et j'ai quand même la sensation que on risque de revoir la patte Luis Campos, à savoir un joueur sorti de nulle part entre guillemets, que lui seul connaît ou presque, et qui sera plutôt un joueur pour créer du déséquilibre en cours de match, parce que c'est aussi, en tout cas c'est mon avis, ce qu'on voit sur la dernière sortie du PSG. On a quand même la sensation que ça manque d'un déclencheur, d'un joueur qui est capable finalement de tout bousculer, parce que Neymar s'est quand même installé dans un certain confort. Messi, c'est plus tout à fait son jeu. Et donc, je pense que, surtout avec un budget aussi limité que celui-ci, à savoir 15 millions d'euros, Luis Campos ira plutôt chercher un joueur de ce profil-là, type ailier, capable d'évoluer dans l'axe, mais surtout un joueur provocateur.
Alors, je suis assez d'accord que dans l'effectif parisien, quand on regarde, il manque peut-être ce rôle d'ailier dont tu parles, mais pour moi, c'est plus dans ce cas-là un ailier pur. Et justement, parce que les déclencheurs, pour moi, normalement, évidemment, et je suis d'accord, c'est si Neymar redevient peut-être ce qu'on a vu dans le début de saison, c'est-à-dire ce joueur capable de faire des grosses différences. Voilà, le temps qu'il digère sa Coupe du Monde, je pense que j'espère surtout pour le Paris Saint-Germain. De toute manière, c'est ça qui va sûrement jouer, qui va être ce qui peut faire toute la différence sur la fin de saison parisienne. C'est aussi les Neymar, les Messi ou les Mbappé vont digérer leur Coupe du Monde. Mais pour moi, quand je parle d'un pivot, c'est vraiment sur des petites périodes de match. C'est-à-dire peut-être que quand dans les 15 dernières minutes d'un match, quelque chose comme ça, c'est à ce moment-là où je pense qu'ils auraient... Exactement, c'est ça. Il faut un plan B pour proposer autre chose à Christophe Galtier, que Christophe Galtier puisse faire autre chose pour justement, s'ils se cassent les dents, un peu comme ce week-end à Rennes, où ils n'arrivaient pas en gros à trouver la faille dans la défense rennaise, et qu'à ce moment-là, peut-être que quelqu'un avec un profil différent de ce qu'il a déjà dans son effectif, peut changer la donne, justement, face à des défenses très regroupées. Et puis pour moi, évidemment, et c'est là où je suis assez d'accord, ça va être compliqué d'aller chercher un pivot dont le style dont on parle, un peu comme cet été d'ailleurs, on sait, Paris était sur Scamacca qui a signé finalement à West Ham, ça va être cher d'aller chercher un type de profil là. Et justement, c'est ce qui me fait un peu douter à l'heure actuelle sur cette capacité d'aller chercher ce joueur qui, pour moi, manque. Et évidemment, c'est une logique court-termiste. C'est-à-dire que quand je dis qu'ils ont peut-être besoin d'un pivot comme ça, c'est pour les 6 prochains mois. C'est pas pour aller réfléchir pour trouver un joueur qui peut compenser l'effectif sur les prochaines années. Ça, vraiment, pour moi, c'est peut-être que Christophe Galtier a identifié une faille dans son effectif et qu'il faut le gommer pour ce mercato, qui est souvent le cas en mercato d'hiver. C'est aussi l'occasion de corriger certains manques dans un effectif.
C'est même à la base l'utilité de ce mercato. Il n'y a que la Première Ligue qui choisit de faire renouveler tous ses effectifs en hiver. On a listé quelques profils possibles d'attaquants pour jouer dans ce rôle-là, notamment Edin Dzeko, l'attaquant de l'Inter Milan, parce qu'il y a du monde qui revient, ou qui est censé revenir, évidemment. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez notamment. Gros bémol, il est quand même âgé, 37 ans. Ouais. Il n'est plus du tout aussi efficace qu'il a pu l'être dans un passé encore assez récent.
Et il a été utile à l'Inter, qui peut-être aura du mal à le lâcher, même si, et c'est peut-être ce qui me fait me dire que c'est peut-être pas totalement exclu, il est en fin de contrat en juin 2023.
C'est une opportunité. On a Roberto Firmino, ouais, qui pour moi aurait pu être la solution idéale, parce que lui aussi est en fin de contrat, parce que c'est quand même un joueur qui est capable d'évoluer en pivot, mais qui a une vraie fibre jeu. Donc pour moi, pour le PSG, ça aurait été idéal. Le seul problème, c'est qu'a priori, il va prolonger à Liverpool, parce que Klopp connaît son importance, sait à quel point il peut être précieux, même s'il n'est plus un titulaire indiscutable. Donc il va vraisemblablement prolonger à Liverpool. On a deux autres noms, Glenn, Marcus Thuram,
Marcus Thuram, exactement, qu'on a évoqué. On le sait, il est en fin de contrat en juin 2023. Il est très demandé sur le marché parce qu'évidemment, il s'illustre à Gladbach depuis le début de saison. Il est vraiment très performant. Il a été replacé dans l'axe en pointe. Il est bon. Alors, il n'a pas forcément. Il est grand, il est athlétique, il est puissant, etc. Il n'a pas forcément le profil type d'un joueur de pivot, mais évidemment, ce serait un joueur fantastique pour le PSG. Le problème pour moi, c'est que ça risque d'être, à mon avis, cher vu tout ce qui. Ce qui se passe autour de lui à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de clubs qui s'intéressent à son cas.
Il a quand même su jouer le pivot en finale de Coupe du Monde pour le but sublime de Mbappé. Donc ça rappelle quelques souvenirs sympas. Autre joueur qui n'est pas un véritable pivot, mais qui, lui, est une nouvelle fois sur le marché, c'est Aubameyang. Là, on n'est pas du tout... En tout cas, on n'est pas sur le vrai pivot qui permettrait au PSG d'avoir quelque chose de nouveau dans le jeu. On est plutôt sur un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace. Et ça, c'est aussi le cas des autres attaquants du Paris Saint-Germain, notamment Kylian Mbappé.
J'y crois pas trop sur Aubameyang. On le sait, il est dans l'impasse un peu à Chelsea où il n'a pas réussi à vraiment se relancer. Il y a des rumeurs parce que justement, il n'a pas réussi à se mettre en avant à Chelsea. Et du coup, comme Chelsea s'est beaucoup activé sur le marché, évidemment, moi, j'y crois pas trop. Je vois pas pourquoi Paris irait tenter ce pari-là que je trouve un peu risqué.
Finalement, l'ironie aussi de la chose, c'est que quand on pense aux définitions qu'on vient de faire, on pense à des joueurs comme Icardi, qui s'est vraiment relancé à Galatasaray. On pense à Choupo-Moting aussi, qui a été indispensable au Bayern Munich sur la première partie de saison. Donc on a la sensation que le PSG a vu ses joueurs passer dans son effectif et qui c'était à un autre moment de son histoire et du coup le PSG n'avait pas autant besoin.
Et je pense, même si c'est pas le même CV, etc., que Kalimuendo aurait pu être utile aussi cette année peut-être au PSG. Alors on voit ce qu'il fait à Rennes, on sait ce qu'il a fait à Lens ces dernières saisons. Je pense que ça aurait peut-être pu rendre quelques services et à l'heure de se poser des questions sur le poste d'avancante.
Voilà, on a fait le tour sur ce sujet, Glenn.
Ouais,
on
peut passer qui va s'activer dans les prochaines heures, prochains jours.
Certainement. On peut passer au gros morceau, très très gros morceau de l'hiver. C'est le cas Mudryk. C'est ce que j'ai dit, le cas, j'ai failli me faire voir. Le cas Mudryk qui s'est engagé à Chelsea pour 100 millions d'euros, bonus inclus. Alors, les bonus, on n'a pas tous les termes.
Non.
A priori, il y a des histoires de qualification en Ligue des Champions, des histoires de titres aussi en Première Ligue. Tous ces critères qui pourraient permettre au Shakhtar de récolter encore un peu plus d'argent. Mais on est sur une part fixe à 70 millions d'euros. Mudryk, on en parle depuis quelques mois parce que c'est un joueur qui a fait plusieurs mois très très convaincant du côté du Shakhtar, qu'on a aussi vu en Coupe d'Europe, et qui semblait promis à Arsenal. On voyait déjà Arsenal dès cet hiver.
Je pense que lui, il s'y voyait aussi. Il avait fait quelques petits appels du pied. On sentait qu'il était aussi peut-être motivé par le challenge.
Sauf que Chelsea et sa folie dépensière ont débarqué pour se l'offrir. Et finalement, c'est le symbole de ce qu'on voit. C'est le symbole des dérives en Première Ligue parce que Chelsea, Glenn, a dépensé depuis que Todd Boehly en est le nouveau propriétaire. Quasiment un demi-milliard d'euros en deux fenêtres de mercato.
Ouais, c'est juste dingue ce qu'est en train de faire Todd Boehly à la tête de Chelsea. Du coup, cet été, juste pour vous rappeler, ils ont déjà dépensé 280 millions d'euros, notamment sur Wesley Fofana, qui a 80 millions, sur Curcurella, avec 65, Sterling, Koulibaly, etc. Ça fait beaucoup de recrues. Et cet hiver, évidemment, comme Chelsea est à la traîne en Première Ligue, forcément, pour essayer de de relancer un peu la machine, ils sont repartis, ils ressortent le chéquier. Du coup, on l'a dit, il y a Mudryk, il y a Badiachil, 38 millions, il y a André Santos, 12 millions, il y a Fofana, 12 millions aussi, et évidemment, il y a eu João Félix, on en a parlé la semaine dernière, qui est un prêt, mais un prêt payant pour quand même 11 millions d'euros. Pour 6 mois, c'est quand même pas mal. Du coup, c'est assez fou, c'est-à-dire ce que Chelsea est prêt à mettre en ce moment sur le marché pour se construire un effectif qui les fait rêver. Alors, rêver, le souci, c'est que je ne sais pas trop, il y a beaucoup d'incertitudes.
En termes de quantité, Chelsea a quasiment deux équipes et demie très très compétitives, en tout cas sur le papier, parce qu'il y a aussi des blessés, etc. Mais on est sur un effectif qui est probablement le plus fourni d'Europe déjà. en sachant qu'en réalité, Chelsea a déjà dépassé la barre des 500 millions d'euros dépensés, puisque Christopher Nkunku va débarquer l'été prochain pour 60 millions d'euros. Malgré ça, malgré également l'arrivée de Graham Potter sur le banc de Chelsea, les Blues ne décollent pas en championnat. Ils sont englués dans le ventre mou. Et à l'opposé, on a Arsenal, qui, lui, n'a pas cédé à la surenchère pour justement Mudryk, et qui finalement ne cède plus à la surenchère depuis quasiment 2 ans, parce qu'on a d'autres exemples, notamment Grealish, de joueurs qui ont intéressé Arsenal, mais qui finalement ont atterri ailleurs parce que des clubs ont décidé de mettre beaucoup plus d'argent qu'Arsenal. Arsenal ne cède plus à cette surenchère depuis, Glenn, la fameuse signature de Nicolas Pépé, il y a 2 ans et demi maintenant.
Qui n'a pas forcément été une grande réussite.
Pour 80 millions d'euros, qui n'a pas été une réussite. Et si on regarde bien tous les joueurs qui sont arrivés à Arsenal depuis ce transfert-là, ce sont quasiment tous des titulaires, en tout cas des joueurs utiles. Et surtout, ce n'est plus des transferts à plus de 50 millions. Alors, s'il y a eu Gabriel Jesus, mais parce que c'est un attaquant qui joue à Manchester City, donc forcément, vous payez le prix. Mais en tout cas, ce sont des indispensables, ce sont des joueurs titulaires. On peut penser à Ben White notamment, on peut penser à Zinchenko aussi, qui est un joueur majeur de l'effectif d'Arsenal. Et Arsenal se porte très bien. Arsenal est leader de Premier League. Arsenal creuse même l'écart avec Manchester City en tête de Premier League. Et donc c'est intéressant de voir que finalement, l'argent ne fait pas toujours le bonheur, même pour des clubs de Premier League qui sont richissimes.
Non, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pour moi, et c'est ce qui fait la différence, c'est là où j'ai un peu de mal sur ce que fait en ce moment Chelsea, c'est que Chelsea, on a l'impression qu'il dépense sans avoir une vraie réflexion derrière. C'est-à-dire, là, en gros, on sait, Mudryk, il excitait un peu tout le monde, notamment Arsenal. Du coup, hop, ils s'invitent dans la danse et ils mettent beaucoup plus cher pour réussir à l'obtenir. Alors on verra sur le long terme, peut-être que c'est le bon pari parce qu'il a un talent monstrueux, mais ce que j'apprécie, ou en tout cas chez Arsenal, c'est qu'on voit qu'il y a un projet qui est mis en place, on voit où les Gunners veulent aller, ils prennent le temps de réfléchir, de prendre les bons joueurs, les joueurs dont ils ont vraiment besoin dans leur effectif pour composer un peu leur 11. Le travail de Mikel Arteta est vraiment superbe, c'est-à-dire qu'au début, en plus, il était critiqué, on laissait le temps de travailler, c'est ça qui est dingue. Et en fait, c'est ce symbole d'avoir laissé le temps à Mikel Arteta de mettre en place ce qu'il voulait faire, de mettre en place sa philosophie de jeu, de faire ce qu'il voulait travailler, on le sait depuis longtemps, de ses époques barcelonaises, j'allais dire, et derrière à City, etc. Je trouve que c'est un beau symbole, et il y a plusieurs joueurs qui me viennent en tête quand je vois ça. William Saliba, ils l'ont prêté pendant longtemps. Finalement, il lui laisse sa chance cette année, il explose. Ben White en parlait au début, ça n'a pas toujours été fantastique. Ils l'ont laissé, il est très bon. Et je trouve qu'il y a une belle osmose entre les joueurs, les jeunes, je pense à Martinelli, à Saka, qui sortent du centre. Et évidemment, des joueurs plus expérimentés dont ils ont besoin et qu'ils ont su aller chercher pour justement construire leur effectif. Je pense à Xhaka, même à Zinchenko ou même Gabriel Jesus, même s'ils sont relativement jeunes parce que c'est des joueurs de 25-26 ans. Mais je trouve que tout est bien pensé à Arsenal et on voit qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Pourtant, ils en ont relativement les moyens. Alors, on sait, à une époque, c'était un peu fustigé avec Arsène Wenger, c'est que c'était justement l'inverse, c'est qu'ils ne voulaient pas du tout dépenser d'argent et que ça commençait à agacer plusieurs supporters d'Arsenal parce que Arsenal était en train gentiment de décliner et qu'en gros on trouvait qu'il ne faisait pas les efforts pour essayer d'arrêter ce déclin. Là je trouve que à l'inverse, j'apprécie, tout est bien réfléchi à Arsenal en ce moment.
On peut même se demander si ça ne va pas faire réfléchir toute la Première Ligue parce qu'il y a Arsenal, tu l'as dit, il y a ce projet qui a été construit quand même depuis assez longtemps. Mikel Arteta qui a eu des résultats à un moment qui étaient très compliqués et qui a été maintenu en poste. On voit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau à Manchester United avec une vraie construction autour de Ten Hag, des recrues qui sont beaucoup moins clinquantes et moins chères aussi que par le passé. Et finalement, on voit que c'est pour ces équipes-là que ça se passe le mieux. Chelsea, parce qu'Abramovic était aussi un petit peu la même chose au début, quand il est arrivé à Chelsea, c'était une folie dépensière. Il a lui aussi appris de ses erreurs et il s'est finalement tourné vers quelque chose de plus raisonnable. Ce qui lui a permis notamment de décrocher les titres en Premier League et en Ligue des Champions. Et donc on se demande si cette réussite d'Arsenal est dans une moindre mesure, en tout cas dans un échantillon beaucoup plus court de Manchester United, ne va pas faire réfléchir les très gros de Premier League à dépenser moins et en tout cas à dépenser beaucoup plus intelligemment, construire mieux. Parce que là, on a vraiment deux opposés avec Arsenal et Chelsea, et aussi deux opposés au classement. Donc, on a vraiment la preuve sous nos yeux.
Donc, clairement, ça va être hyper intéressant de voir comment, justement, Todd Boehly adapte un peu sa manière de réfléchir. On sait qu'il découvre un peu le football, il s'est entouré ces derniers temps. Bah, on va voir comment ça fonctionne, et on le verra peut-être pas cet hiver. Alors, déjà, on va voir comment sa logique d'accumuler les joueurs à coups de millions va fonctionner sur les prochains mois, sur la fin de saison, et on verra comment il s'adapte sûrement cet été aussi, parce qu'il ne pourra pas non plus dépenser à tout va comme il est en train de le faire depuis deux fenêtres de mercato. Voilà.
Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on avait quand même la sensation qu'il y avait un projet qui se mettait en place également à Chelsea,
ouais,
avec Tuchel, avec l'arrivée de jeunes joueurs, les Havertz, etc. Boehly est en train de balayer tout ça, de repartir à zéro. Un petit peu dans tous les sens.
Ce qui est dommage, parce qu'il a un vrai coach qui est capable de mettre, on l'a vu à Brighton, qui est capable de mettre quelque chose en place, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut lui laisser du temps. Et ce qu'a su faire Arsenal avec Arteta, bah, je ne suis pas sûr que Todd Boehly ait la patience de le faire avec Potter. J'attends de voir, je serais très surpris si ça continue comme ça, que Potter soit encore en place dans les mois suivants. Si, bien sûr, ça continue comme à l'heure actuelle, c'est-à-dire si Chelsea est toujours dans les ventre mou de la Première Ligue.
Toute proportion gardée, et je finirai là-dessus, ça me fait un petit peu penser à ce qu'était devenu Monaco juste après avoir été champion de France, où l'ASM a vu que son modèle fonctionnait sur le plan sportif et a essayé de l'accélérer en achetant beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs, je pense à Pellegrini notamment,
ouais,
pour des sommes assez folles, en tout cas pour le marché français, et qui finalement en est arrivé à un point où il y avait un effectif beaucoup trop fourni, à tel point que les entraîneurs qui sont succédés sur le banc de Monaco ne savaient plus quoi faire, étaient complètement perdus. Donc ça me fait un petit peu penser à Monaco. Évidemment, on est dans une autre sphère, on est dans d'autres montants, mais j'ai peur que l'échec soit le même. Voilà.
Mmh. On a fait le tour sur ce bon sujet Chelsea-Arsenal, un petit derby sur le mercato aussi, et on va enchaîner avec notre troisième sujet sur Memphis Depay.
Memphis Depay, dont on a évoqué l'avenir la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de nouveaux depuis, parce que l'Atlético souhaite recruter l'attaquant néerlandais. Le FC Barcelone est visiblement un petit peu moins chaud, même si le joueur sera en fin de contrat en juin 2023. Le joueur qui, selon la presse espagnole, s'est déjà mis d'accord avec l'Atlético, reste à trouver un terrain d'entente pour les deux clubs. Il se trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce que y a un autre joueur qui est impliqué dans ce deal, Glenn, c'est Yannick Carrasco.
Exactement, selon évidemment la presse espagnole, et pas seulement, parce qu'on l'a vu, il y a l'agent de Yannick Carrasco qui l'a dit à la presse belge ces dernières heures. On discute, ils aiment Yannick, c'est un bon joueur, le plan est d'échanger Yannick contre Memphis Depay, il n'y a toujours rien de concret. Je ne sais pas si ça peut marcher, mais des négociations sont en cours. Donc, en gros, c'est clair et net. Le FC Barcelone veut Yannick Carrasco et en échange de Memphis Depay. Yannick Carrasco, juste pour remettre en place un peu sa situation, lui, il est en contrat jusqu'en juin 2024. Il n'est pas flamboyant cette année avec l'Atlético, même avec la sélection belge.
Ouais, je trouve qu'il incarne, enfin, j'allais dire le mieux, mais il y a Eden Hazard, donc il incarne lui aussi le déclin de la génération belge, parce que cette année ça se passe pas bien, ouais, et l'année dernière c'était déjà un petit peu plus compliqué. Donc Carrasco, il va falloir qu'il se relance, et il a 29 ans, donc il va falloir qu'il s'active.
Exactement, et c'est d'ailleurs ce que quand la presse belge dit, c'est qu'en gros il est un peu un tournant de sa carrière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve comment relancer sa carrière, parce qu'on le sait, à 29-30 ans, bah, c'est là où tout peut jouer aussi pour une fin de carrière réussie ou une fin de carrière en un peu plus compliquée. Alors sur le fond, parce que c'est intéressant cet échange, sur le fond, je comprends que le FC Barcelone tente Yannick Carrasco, parce qu'il y a un coup à jouer, c'est vrai qu'il a un profil, on sait, avec sa polyvalence, etc. Si un joueur, une équipe arrive à relancer Yannick Carrasco, ça peut, si le FC Barcelone arrive à lancer, ça peut apporter autre chose à Xavi pour son de départ, surtout qu'on le sait, notamment un joueur comme Rafinha ne fait pas forcément l'affaire, même s'il est arrivé cet été, il avait bien commencé, c'est beaucoup plus compliqué depuis quelques mois maintenant. Donc évidemment, Yannick Carrasco, avec sa polyvalence, cette aptitude à apporter autre chose, peut faire un bien fou au Barça. En revanche, je serais très surpris de voir l'Atlético se séparer d'Yannick Carrasco cet hiver. On le sait d'ailleurs, il y a eu une l'Atlético essaye de le prolonger depuis quelques semaines maintenant, et que pour le moment, bah, Yannick Carrasco en veut plus et visiblement aurait refusé les premières approches des Colchoneros.
Et surtout, l'Atlético l'estime à 60 millions d'euros. Alors, est-ce qu'ils sont dans le vrai? J'ai un doute. Mais en tout cas, l'Atlético estime que la valeur de Carrasco est beaucoup plus élevée que celle de Memphis Depay, notamment parce que Depay joue beaucoup moins et qu'il arrive en fin de contrat. Donc, l'échange ne serait pas équitable. Et Relevo, un média très sérieux espagnol, nous annonce que l'Atlético pourrait trouver un moyen de pression, à savoir aller chercher Vitinha, l'attaquant de Braga. Rassurez-vous, supporters parisiens, il s'agit de l'attaquant de Braga en prêt jusqu'à la fin de la saison pour patienter jusqu'à l'été prochain et accueillir Memphis en tant que joueur libre en juin prochain.
Parce qu'on le rappelle, s'il y a ces questions-là, c'est évidemment parce que Memphis Depay est évoqué, parce que évidemment l'Atlético a perdu du monde dans le domaine offensif ces dernières semaines, entre Raúl Félix qui est parti en prêt à Chelsea et Cunha, qui s'est envolé aussi pour la Première Ligue. Du coup, ça fait du monde. Ils cherchent du monde pour, en gros, compenser un peu leur secteur offensif. Et du coup, c'est pour ça qu'intervient cette autre option, le temps d'attendre Depay, qui, en effet, sera libre dans 6 mois et peut être une bonne occasion de le récupérer sans trop débourser et sans surtout perdre un joueur comme Yannick Carrasco. Parce que c'est sûr qu'à l'heure actuelle, si en plus il perdait Yannick Carrasco, il serait peut-être obligé de s'activer encore pour trouver un autre joueur pour compenser ce départ dans un quart d'un échange.
En sachant que, ça on l'avait déjà un petit peu évoqué la semaine dernière, en termes de profil, Memphis Depay, j'ai réfléchi pendant une semaine.
C'est toujours pas ça.
J'ai encore un petit peu de mal à imaginer Memphis Depay dans le 11 de l'Atlético, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de mal avec les efforts défensifs. Parce que, alors, le duo formé avec Morata pourrait être intéressant. Je trouve que Depay, son meilleur poste, c'est en tout cas quand il joue dans une attaque à deux. Ça peut être intéressant sur ce plan-là. Sur le plan défensif, j'ai beaucoup plus de mal à l'imaginer. Et je vois beaucoup plus Memphis Depay dans un club, dans une équipe plus joueuse que l'Atlético. Alors que, tu l'as dit en tout début de sujet, Carrasco au Barça, je trouve que c'est une très bonne idée. Notamment pour apporter un petit peu plus de verticalité à l'équipe de Xavi, qui en a un petit peu besoin, même si ça s'est un peu moins vu, notamment en Supercoupe. Mais je pense que ça peut être intéressant. Sur le profil, Vitinha, pour moi, est plus intéressant que Depay pour l'Atlético, parce que pour le coup, c'est un joueur travailleur. C'est un joueur qui sait très bien jouer en déviation. Et surtout, c'est un jeune joueur, donc qui a une vraie marge de progression aussi, même si s'il s'agit que d'un prêt, c'est un petit peu moins intéressant.
Oui, je suis totalement d'accord. Je vois pas, pour être franc, je vois pas pourquoi l'Atlético, à part pour cette opportunité de contrat, c'est-à-dire avec 6 mois, il reste plus que 6 mois de contrat à Depay au Barça, je vois pas vraiment l'intérêt de Diego Simeone d'aller chercher Depay. Surtout qu'on sait que Diego Simeone est quand même exigeant sur notamment sur le côté défensif, même pour ses attaquants. Et que je me souviens pas de, comme on l'a dit la semaine dernière, de Pay à Lyon, c'était parfois compliqué. Du coup, j'ai un peu de mal à le voir avec Diego Simeone sur le banc.
Et est-ce que tu dois gagner, remporter le Mercacuiz aujourd'hui?
Je sais pas. Est-ce que je vais enchaîner sur ma lancée, tu veux dire?
Ah, je suis pas.
Faut
bien
le rappeler quand même, parce que je l'ai gagné la semaine dernière, donc faut en remettre une couche. Écoute, je sais pas, mais j'ai un super joueur à proposer.
Eh bien, on accueille Quentin Guichard. Quentin, bienvenue.
Salut messieurs.
Alors, on précise à nos auditeurs, spectateurs qui peuvent nous retrouver sur Twitter, que nous ne sommes pas en deuil.
Non,
c'est vrai. Nous sommes tous habillés en noir.
Et on a un petit peu les Men in Black. Flipper, pour faire une petite référence un petit peu ringarde.
Avec beaucoup moins de charisme que les acteurs de Men in Black.
Tu trouves qu'on a moins de charisme que Will Smith, par exemple?
Alors là, moi, je reconnais qu'il y en a un du lot, je trouve qu'il y a autant de charisme que Will Smith. Je dirais pas qui. Mais...
Bon, c'est une...
On va vers une impasse. On va vers une impasse.
Et j'ai l'impression qu'on peut se mettre des gifles comme Will Smith aussi. Donc, calmez-vous.
Ça nous arrive régulièrement.
Ouais.
Quentin, est-ce que tu peux nous rappeler les règles du Mercacuiz?
Les règles du Mercacuiz sont très simples. Est-ce qu'il faut encore les rappeler?
Franchement, oui, quand même, on sait jamais.
Moi, je veux bien qu'on les rappelle. Ouais, ça me plaît toujours quand tu les rappelles.
Alors, je vais.
Un truc, un moment. Vas-y.
Et je vais égrener la carrière d'un joueur.
Voilà.
Toujours en activité. Très important. Et en fait, tout simplement, voilà, le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur, remporte un point au Mercacuiz Ranking. C'est toujours l'impasse. Non, Glenn qui est revenu dans la course au titre.
Ah, voilà. Mais dans la course au titre même.
Non, faut pas exagérer.
Ça paraît bizarre, ouais. Parce
que dans la course à la Ligue Europa Conférence.
Ouais. Ouais. T'es dans la Merca Quiz Conférence.
C'est pas mal, je trouve.
C'est pas mal.
C'est pas mal. C'est une compétition qui est pas désagréable à disputer.
Et bien sûr, la règle Pereira-Mora, la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Je vais y arriver. C'est à vous, messieurs.
Christian Brulz.
Christian quoi?
Brulz.
Christian Brulz. Je sais pas qui c'est.
Comment
c'est qui
ça?
C'est qui?
Bah, l'ancien Niçois qui est passé par le Stade Rennais. Belge qui joue en Algérie.
Mais c'est qui?
Je suis pas bien là.
Comment il s'appelle?
Nouvelle impasse, ouais.
Ouais.
Là, on est.
Là, c'est le cul-de-sac.
Brulz.
B-R-U-L-E-S.
C'est pas une marque de gâteau, ça?
L-S. B-R.
C'est les gâteaux apéritifs, ça?
L-S. Bon.
Eh bien, merci Glenn. En tout cas, tu avais 100% de chance de tomber dessus avec ce.
Ah, voilà.
Bah, en plus, il a une carrière ça, pour le Mercacuis, ce serait magnifique. Ouais. Bah, il a joué au Stade Rennais, à Nice. Mais c'est fou ça.
Bah, pour moi, ça sera Nicolas Palois.
Oh, joli. Il est encore. Ah oui, là, il est.
Oh, Nicolas Palois, il a encore commencé.
Tu sais avec qui je l'ai confondu? Avec Nicolas Pento.
Ah oui, non, voilà. Non.
Oula.
C'est pas la même chevelure déjà.
Surtout, je vois pas comment t'as pu les confondre. À part
Nicolas.
Ouais, super.
Ouais. Vite, quand même.
On voit le niveau déjà.
Donc ouais, Nicolas Palois qui joue au FC Nantes, bien sûr,
évidemment.
Très sympa. Ouais.
Bon, bah, c'est fait le parcours.
Allez, c'est parti.
Je suis chaud là. Je débute le football au CE L'Hospitalet, puis rejoins le centre de formation du FC Barcelone en 2004, alors que je suis âgé de 8 ans. Je débute avec l'équipe d'Espagne des moins de 16 ans en 2012, puis en 2013, je joue avec les moins de 17 ans. Et avec les moins de 19 ans, je participe au championnat d'Europe 2013, parvenant jusqu'en demi-finale.
C'est pas Borjan.
En novembre 2013, l'entraîneur Gerardo Martino me fait débuter, âgé de seulement 17 ans, avec l'équipe première du FC Barcelone en Liga face à Grenade.
C'est pas Pedro.
Je deviens ainsi le 8e joueur le plus jeune de l'histoire du Barça à débuter sous le maillot Blaugrana.
C'est pas Cuenca.
Trois jours plus tard, je débute en Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. En février 2014, je mène le FC Barcelone B à la victoire face au Real Saragosse en 2e division. Le Barça B termine la saison 2013-2014 à la 3e place du classement et je fais partie du 11 idéal du championnat. Avec les juniors du Barça, je remporte aussi la Youth League de l'UEFA en 2014. Je fais partie des 8 jeunes de l'équipe réserve choisie par l'entraîneur Luis Enrique pour effectuer la pré-saison 2014-2015 avec l'équipe première.
C'est pas Ricky Puch ?
Non. En décembre 2014, j'inscris mon premier but avec l'équipe première lors d'un match de Coupe d'Espagne au Camp Nou face à Huesca pour une victoire 8-1.
C'est pas Baldé.
Au total, je fais seulement 4 apparitions en équipe première. En août 2015,
c'est là où ça va être sympa.
Je rejoins Aston Villa. Juste après mon arrivée, l'entraîneur Tim Sherwood déclare,
c'est pas Buendia,
déclare que j'ai un peu de Messi et un peu de Ronaldo.
Ah,
rien que ça. Je prends part à ma première rencontre.
Et c'est pour ça qu'il était à Aston Villa d'ailleurs.
Bah c'est ça, ouais, a fait sens. Ça fait sens.
Tout à fait.
Je prends part à ma première rencontre avec Villa en première ligue face à Crystal Palace pour une défaite 2-1. L'équipe est dernière du championnat dès la 10e journée et est reléguée en 2e division. En août 2016, je m'engage avec Middlesbrough, promu en première ligue, où j'ai comme entraîneur mon compatriote Heitor Karenka, déjà connu en sélection de jeunes espagnols. En décembre 2016, alors qu'on me reproche de ne pas savoir utiliser à bon escient mes qualités de vitesse,
j'ai eu peur, j'allais dire mes deux pieds.
Oui.
Ce qui était embêtant, ce qui pour serait un dommage. Qui ressemble à Messi, Ronaldo.
C'est vrai.
Oh là,
je déclare, je ne pense pas qu'il y ait plus rapide que moi en première ligue. Karenka travaille avec moi à la vidéo, pointant mes lacunes tactiques dans le placement et la prise de décision. Lors de la saison 2017-2018, je marque 5 buts et délivre 10 passes décisives en D2 anglaise.
Ah, j'ai un trou de mémoire.
Et moi, je ne l'ai pas du tout.
En mars 2018, j'honore ma première sélection avec l'équipe d'Espagne Espoir face à l'Irlande du Nord. J'inscris 5 buts en 71 matchs en l'espace de 2 saisons sous le maillot de Boro.
Si je t'aide, Jap, et que tu le trouves, grâce à moi.
Vas-y, aide-moi.
En août 2018, je signe avec les Wolverhampton Wanderers, promu en Première Ligue. J'inscris mon premier
c'est
but...
C'est pas M. Musk, là ? J'ai oublié son nom.
Pardon ?
J'ai un truc.
Il invente des régènes de football manager.
J'inscris mon premier but sur la pelouse de West Ham United. Je réalise alors ma meilleure...
Attends, pardon, on est en quelle année, là ?
Là, on est en 2018.
C'est pas possible, un Espagnol 2018.
J'inscris mon premier but sur la pelouse de West Ham United. Je réalise alors ma meilleure saison avec un but marqué et 3 passes décisives.
Non, là, c'est pas...
Jusqu'à cette saison, je suis défini comme un impact player utilisé en cours de rencontre.
Ah, c'est Adama Traoré ?
Ah ouais, évidemment, c'est Adama Traoré. Bah Monsieur Musc, c'est pas Adama Traoré.
Je l'ai dit.
C'est Adama Traoré.
Ah, il avait dit Monsieur Musc.
J'avais trompé, mais j'avais compris muqueuse, je sais pas quoi.
Muqueuse.
Ouais, muqueuse.
Impossible de remettre.
Mais bon, je l'ai depuis
Adama Traoré.
Alors par contre, Aston Villa, je l'avais pas.
Non. Je l'ai depuis, ouais, impossible de le. C'est fou.
Alors il y a pas de demi-point.
Non, bah non, non, mais je, ouais. C'est dommage. Je l'ai et c'est pour ça que quand j'ai dit Monsieur Musc, tu m'as repris de voler.
Bah, je ne pouvais pas te donner d'indice sur si c'était ça, si c'était pas ça.
Non, mais t'aurais pu dire, bah, tu l'as, mais voilà.
Bon, ah ça, oui, d'accord. Ouais. Donc tu fais tes.
Ça aurait aidé déjà. Je veux dire.
Oui.
J'ai pas besoin d'aide finalement.
T'as pas besoin d'aide, tu domines.
Je suis content parce que ça faisait un petit coup de temps que j'avais pas gagné.
C'est vrai que c'est ta première victoire de 2023. Hein.
Oui, en même temps, c'est ta deuxième.
Oui, mais en même temps, t'as perdu contre Glenn la semaine dernière.
Oui,
certes.
C'est vrai.
Donc, comment t'as vécu ta semaine d'ailleurs? T'as fêté ça un petit peu le soir en...
ouais, bah, évidemment,
à la maison.
Champagne.
Mais ne faites pas des choses qu'on donne au hasard comme ça.
Non, mais attends, il est allé le chercher. Tu te souviens même pas qui était le joueur la semaine dernière, je suis sûr.
Eh bien, non.
Voilà. Alors que Glenn, il va dérouler. Voilà, Nolan Roux.
Nolan Roux, exactement.
Ouais. Adama Traoré, je suis vert, je l'avais depuis 3 minutes. Quoi.
Ouais, tu l'as pas donné.
N'en fais pas trop non plus.
Au moins 3 minutes.
Et donc convoqué avec l'Espagne. Ensuite.
Oui, donc en fait, j'ai fait tous les joueurs passés par le Barça B, sauf le
bon. Il manquait que lui, mais tu l'as eu.
Tu l'as eu au final. Bien joué, Julien. Voilà. Merci à tous. Je suis heureux parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas gagné le Merca Quiz quand même. Mm.
Tu sais que tu vas passer une bonne semaine.
Et je sais que je vais passer une bonne semaine. On va, pour ne rien vous cacher, on va aller manger. Ouais. Et on va se lâcher. Parce que des Merca Quiz, ça se fête. Des victoires au Merca Quiz.
Du coup, c'est quoi pour toi ce midi, Glenn? Soupe à la grimace? Oh, elle est bonne.
Ça, c'est ringard.
Ça, c'est très ringard.
Ça, c'est ringard.
Ouais. Ah ouais,
ça c'est un peu
ringard. J'avoue que. C'est un peu le thème de la journée. Et là,
là je suis au top de la ringardise.
Ah ouais.
Messieurs, dames, merci beaucoup. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et profitez de la vie, tout simplement.
Au revoir.
Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.